Bonjour Loïc Prud'homme.
Bonjour.
Vous avez passé une partie de la journée d'hier au Salon de l'Agriculture avec quatre de vos collègues de la France Insoumise et vous avez plaidé pour le développement des circuits courts et de l'alimentation bio afin, dites-vous, d'assurer des revenus plus décents évidemment aux agriculteurs et de redonner du sens également à leur métier. C'est un aspect qui n'est pas forcément négligeable en effet. Cela permettrait selon vous de créer 500 000 emplois, alors c'est considérable. À quelle échéance, en combien de temps?
Écoutez, dans une échéance assez courte, hein, je pense que c'est moins de 10 ans. Il faut savoir que sur les 10 ans qui viennent de passer, le modèle qui est actuellement en route depuis presque un demi-siècle nous a fait perdre 350 000 actifs agricoles. Donc nous, on propose d'inverser effectivement toute cette logique et de renverser la vapeur. Et en 10 ans, il est tout à fait probable que l'on puisse créer effectivement un demi-million d'emplois sans grande difficulté.
Est-ce que le bio peut devenir une production de masse? Est-ce que ça n'est pas antinomique?
Non, ça, on voudrait cantonner l'agriculture locale, paysanne, qui respecte l'environnement à une niche. Mais en fait, ça doit devenir la norme. En fait, c'est ça l'était avant que l'agriculture industrielle ne la pousse dans cette niche-là. Mais c'était le mode de production qui a existé, qui a préexisté. Donc voilà, non, c'est pas une production de niche et c'est surtout aujourd'hui une grande nécessité. On voit que le système aujourd'hui dominant est une impasse. C'était le ministre Pisani dans les années 60 qui disait « je vais industrialiser l'agriculture française » pour pouvoir donner des revenus aux agriculteurs et nourrir les gens. On voit que soit les gens se sont trompés, soit nous ont menti. Mais un demi-siècle plus tard, on voit le problème. Un tiers des agriculteurs qui ne gagnent pas 350 euros par mois et les autres qui sont dans des grandes difficultés. Donc on voit qu'il faut vraiment réfléchir autrement et prendre le problème par l'autre bout, celui de l'alimentation des personnes, une alimentation saine et du revenu des agriculteurs.
Comment on atteint cet objectif donc de vraiment l'intensification de la production bio? Par un système d'aide à l'installation, d'aide au maintien. On sait que les aides au maintien viennent d'être supprimées ou réduites pour une bonne partie. Comment on s'y prend?
Alors, il y a deux choses. Il faut déjà lutter contre la propagande qui nous fait croire que le prix qu'on paye à la caisse du supermarché est le vrai prix des produits industriels que l'on achète.
Ouais, c'est-à-dire que puisque vous parlez de prix, c'est vrai, j'allais y venir, que le bio reste aujourd'hui pour pas mal de personnes un produit un peu de luxe parce que c'est cher.
Et non, justement, c'est pour ça que je voulais démarrer par la caisse du supermarché. Ouais. C'est que le prix que vous payez votre poulet industriel à la caisse du supermarché, il ne prend pas en compte les dégâts environnementaux, les dégâts en termes de santé publique et les dégâts sociaux. Donc on n'a pas le vrai prix que l'on paye à la caisse du supermarché, il y a un mensonge qui est là. Et donc l'agriculture paysanne, bio quand elle peut l'être, dans le prix que vous payez, vous avez déjà tout ça qui est intégré. Mais il faut savoir que quand vous achetez votre poulet industriel, ces coûts qui ne sont pas à la caisse du supermarché, vous allez les payer plus tard, hein, dans vos soins, parce que vous allez être malade plus souvent, ou les maladies chroniques qui se développent, etc., etc. Donc comment on fait pour le massifier, il faut déjà qu'on aide effectivement les jeunes agriculteurs qui massivement s'installent en bio à s'installer. Et nous, on a plaidé à la France Insoumise, et moi j'ai porté cette question au gouvernement sur les basculements d'une partie du pilier 1 de la PAC vers le pilier 2, qui est celui qui peut aider à l'installation et au maintien. Et on a vu que c'était une bataille qui a été arbitrée en défaveur de l'installation d'agriculteurs en bio.
Jean-Luc Mélenchon n'ira pas au Salon de l'Agriculture?
Il était en Guyane et il y avait aussi une question agricole puisque la forêt guyanaise aussi était une ressource
Et la pêche aussi. Il a dénoncé le niveau qui est selon lui une honte de la pêche illégale dans les eaux guyanaises. La France Insoumise, en tout cas l'une des députées européennes de la France Insoumise, demande que le Brésil soit placé sur la liste noire des pays qui pratiquent la pêche illégale.
Il faut à un moment regarder les choses en face et arrêter de tourner la tête pour dire que on va pouvoir importer par exemple du poisson à faible coût. Donc si les pratiques sont avérées, bien sûr, il faut mettre le Brésil à l'amende sur ces pratiques de pêche, comme on l'a fait sur les Pays-Bas avec la pêche électrique, où on a dit non, ça ne peut plus durer. Il faut retrouver quand même des choses un petit peu correctes dans la pratique de l'agriculture, de la pêche. C'est assez cohérent hein, sur l'ensemble.
Le Premier ministre a annoncé il y a quelques jours une réforme de la SNCF, une vaste réforme. Est-ce que vous espérez que ce projet puisse être l'occasion de la grande mobilisation sociale qui, pour l'instant, n'a pas eu lieu?
Écoutez, on espère surtout qu'on pourra sauvegarder notre service public de la SNCF, parce que là, on est face à une injonction de l'Union européenne de libéraliser le marché du rail.
Ça a été voté.
De fait.
Au Parlement européen.
On voit aussi que ça a déjà été fait pour le fret ferroviaire. On voit l'extraordinaire réussite. C'est qu'on a depuis les années 2000 1,8 million de camions de plus sur les routes. Que Geodis, filiale SNCF, est le premier concurrent de la SNCF, transporteur de fret, etc., etc. Donc c'est un échec. Ça ne marche pas, la libéralisation. Et j'en reviens aussi aux coûts qui sont toujours cachés dans ces injonctions de libéraliser. C'est que aujourd'hui, le transport routier, ça nous coûte 101 milliards. C'est un rapport parlementaire du Sénat qui a été fait il y a quelques années. Deux ans, je crois, qui a chiffré à 101 milliards le coût social de la pollution de l'air, du transport routier, et ça nous coûte 48 000 morts par an. Donc il faut, quand on veut discuter de ces sujets-là, il ne faut pas juste regarder la première phase de la feuille, mais il faut regarder le dossier dans son ensemble et voir ce que ça nous coûte à tous. Moi, j'espère que le 22 mars, les cheminots, mais aussi tous les fonctionnaires qui sont attaqués, les infirmières, les salariés des EHPAD, seront dans la rue pour dire ça suffit de ce modèle de société qui nous met tous en concurrence les uns avec les autres et qui nous amène à une catastrophe sociale immense.
Jean-Luc Mélenchon est très en colère contre les journalistes après la publication d'articles, la diffusion de reportages sur ses comptes de campagne. Sur son blog, il écrit, je le cite, j'ouvre les guillemets, « La haine des médias, au sens de « il faut haïr les médias », la haine des médias et de ceux qui les animent est juste et saine ». Est-ce que c'est un propos dont vous vous sentez solidaire ?
Écoutez, en l'occurrence, il s'agit de la campagne absolument indigne de nombreux journalistes qui n'ont de journalistes que le nom, puisqu'ils n'ont pas fait aucune enquête, aucun métier sur les comptes de campagne. Des comptes de campagne dont je voudrais rappeler à tous ici qu'ils ont été validés par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements de la vie publique. Donc à partir de là, comment voulez-vous accorder le moindre crédit à tous ces journalistes qui n'ont de cesse que de faire des copier-coller d'informations non avérées, voire même fausses? Donc c'est pour ça que Jean-Luc Mélenchon est en
Est-ce que cette
tous,
affaire dont on peut comprendre que ça l'agace, que ça l'énerve, est-ce que ça doit conduire à dire que haïr les médias et ceux qui les animent est juste et sain?
Ça doit conduire à dire que le travail n'est pas fait correctement par une grande partie de cette profession-là. Et c'est pour ça que nous, on propose un conseil de déontologie qui a recueilli aujourd'hui une pétition pour cette création qui recueille aujourd'hui plus de 200 000 signatures. Donc ça veut dire que c'est un sujet quand même qui intéresse les gens. Parce qu'il faut qu'enfin, il y ait des informations vraies, avérées, vérifiées, qu'il y ait des enquêtes qui soient faites. Et donc, comprenez...
Donc vous ne diriez pas les choses comme ça.
J'emploierais peut-être pas forcément ce vocabulaire, mais dans l'esprit, on est quand même au cœur du sujet. C'est qu'on ne peut pas tolérer d'avoir des déversements comme ça d'informations fausses sur notre dos à longueur d'année sans rien dire.
Merci Loïc Prudhomme. Bonne journée.
Merci à vous.